Alors merci, bonjour à tous. Je voudrais rendre, je voudrais bénir notre Seigneur aujourd'hui, comme nous l'avons fait dans nos chants, bénir Jésus, bénir Yeshua, en hébreu qui veut dire Dieu sauve. Voilà, quand on prononce le nom de Yeshua, Dieu sauve, on a une bénédiction. Voilà, que cette bénédiction soit pour vous. Alors, depuis quelques années, je suis des cours d'hébreu d'initiation. C'est pas du tout, mon but n'est pas du tout d'apprendre l'hébreu. C'est Daniel Sten qui enseigne ça. Et on a toujours des choses qui m'apportent, moi, personnellement. Et je voudrais vous faire part d'une part de son enseignement que j'ai enrichi avec mon expérience. Voilà. Donc Jésus nous a dit, alors c'est dans Matthieu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ça, c'est une chose que moi personnellement j'ai toujours été troublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus ne va pas faire la loi, il accomplit la loi. Donc je suis allé voir dans le dictionnaire, dans le Larousse, et le mot accomplir, c'est mener une fonction, une période, jusqu'à leur terme, les achever. Ils ont donné un exemple, accomplir son mandat. Donc il y a une notion de quelque chose qui se termine. Alors il y a une autre façon aussi de voir accomplir, c'est réaliser, exécuter un projet, une action. Ils ont donné un exemple, accomplir la volonté de quelqu'un. Donc Jésus accomplit la loi. Donc je vais donner deux exemples dans la Bible pour essayer d'expliquer comment Jésus accomplit la loi. Alors on va aller dans Jean 8, 3 à 11. Donc là, il s'agit de... On va demander à Jésus de juger une femme adultère. Elle vient d'être prise en flagrant délit d'adultère et on lui demande qu'est-ce que Jésus va faire. Donc Jésus... Pardon. Les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dire à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, qu'en dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, et à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Voilà, donc si Jésus avait pris la loi de Moïse, lettre à la lettre, il aurait dû dire, lapider cette femme. Or, c'est pas le cas. Et je pense que Jésus a été très très gêné dans cette interrogation. On le voit quand il s'abaisse, il va écrire au sol, comme s'il était absent de ce qui se passait autour de lui. Et je pense que le péché était là autour de lui. Cette femme, mais aussi ces hommes qui voulaient lapider cette femme, la haine qu'ils pouvaient avoir, tout ce qu'ils pouvaient décharger sur cette femme. Et Jésus, non, pour accomplir la loi, il l'a fait avec amour. C'est l'amour qui a accompli la loi. Si on regarde dans Romains 13, 10, je vous le lis rapidement parce que c'est qu'une phrase, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors pour le deuxième exemple, on va se reporter sur les anciens livres. Je vais avoir plusieurs textes sur les anciens livres et on va commencer par Nombre 35. Donc il faut savoir que Nombre, le livre des Nombres, c'est de moins 1200 à moins 400. Donc c'est avant Jésus-Christ, c'est quand même assez loin. Et alors, le nombre, ça concerne bien souvent des lois. Alors, nombre, alors je ne vais pas tout lire parce que ça va de 1 à 13, mais je vais avoir des coupures. Donc, Nombre 35, 1. L'Éternel dit à Moïse, dans les plaines du Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez ainsi un territoire autour de ces villes. Au verset 6, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura ville de refuge, où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir. Ensuite, au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez rentrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que l'auteur d'un homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi ces villes, vous donnerez 6 qui serviront de ville-refuge. Donc on voit que la loi qui est donnée par Dieu, elle est donnée à Moïse pour le partage du territoire qui est donné aux Israéliens. Et les Israéliens doivent partager avec les Lévites qui sont censés ne pas avoir de territoire, mais on leur donne des villes. Et sur toutes les villes qu'ils auront, 6 seront consacrées au refuge. Alors, il y aura 3 villes qui seront du côté du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, et 3 autres villes qui seront du côté de Canaan. Alors, est-ce que vous connaissez le vengeur de sang? Personnellement, j'ai jamais connu ça. J'avais déjà lu, mais qu'est-ce que ça voulait dire, le vengeur de sang? Alors, le vengeur de sang, il faut savoir, alors là, c'est vraiment pour les Israël. Ça nous concerne pas vraiment. Le vengeur de sang, c'est quand quelqu'un avait été assassiné. Dans la famille qui avait été touchée par le crime, on pouvait désigner quelqu'un, un proche parent, qui allait être chargé à la vengeance. Donc, il pourchassait le tueur jusqu'à la fin, jusqu'à le tuer. Et donc, ça, c'était la loi. Et donc, Dieu a mis à disposition pour protéger des gens. Alors, c'était des gens qui avaient tué involontairement. C'est-à-dire que c'était par accident. Ils pouvaient aller se réfugier, donc ils se dépêchaient d'aller dans ces villes. Et là, il y avait un jugement. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient sauvés. Il y avait un jugement qui était réalisé, et ou c'était la mort pour lui, ou alors un acquittement, ou un dédommagement, ou je ne sais quoi. Hein, c'était vraiment il y avait un jugement. Alors, je vais vous parler maintenant de celui qui a le devoir de rachat. Alors, le droit de rachat était établi en vue de l'installation du peuple hébreu sur la terre promise. Donc, le proche parent qui a le droit de rachat s'appelle le Goël. Le vengeur de sang s'appelle aussi le Goël. C'est pour ça que je parle des... Voilà. Donc, on va aller dans le Lévitique. Je vais vous lire comme ça. Hein. Lévitique 25, de 24 à 25. Dans tout le pays dont vous aurez la possession... Vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, Celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Alors ça, c'était important parce que ça permettait que si quelqu'un vendait un bien, ben, un proche parent pouvait dire « Ce bien-là n'est pas à toi, il appartient à notre famille et je te le rachète. » Il avait un droit. Ça permettait en fait de garder la terre dans les familles et de continuer. Donc le mot hébreu pour ce parent-là vient du verbe « gaal » qui peut être traduit par « venger », « vengeur de sang », « rédempteur », « parent proche », « racheter », « libérer », « sauver », « accomplir » ou « accomplir une vengeance ». Donc vous voyez, c'est un mot « gaal » qui veut dire énormément de choses. Donc on a un exemple, par exemple, pour le rédempteur dans Job 19, 25 à 27. « Mais je sais que mon rédempteur, le Gaal, est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. » Alors, le proche parent, pour Israël, il y avait deux responsabilités, deux choses à faire. La première, c'était de poursuivre le meurtrier et de le tuer. Ça, c'était la loi. On regarde dans Nombre 35, 19, « Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera, il le tuera. » C'est violent, hein, c'est la loi. Bon, faut savoir que c'est avant Jésus, hein, vraiment très loin. La deuxième chose, c'est de prendre la veuve pour épouse et donner des descendants à l'homme mort. C'est toujours dans l'idée de continuer la lignée et de garder la terre. Donc il devait racheter la propriété du défunt. Alors on a des exemples, par exemple dans Ruth 3, 7 à 10. Boaz, maugeant et bu, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vient alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et il dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché de jeunes gens, pauvres ou riches. » Donc en fait, Ruth se retrouve sans mari, et le proche parent, elle va voir le proche parent, et elle vient lui dire, « Tu as le droit de rachat. » Et donc, cette personne, Moaz, peut, s'il le désire, racheter, je dirais, le patrimoine de son mari et cette femme. Après, il y a Ruth 4, 3 à 6. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenu du pays de Moab, à vendre la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. C'est là qu'il y a le mot Goël. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Moi, je ne vais pas plus loin. Et voilà, c'est-à-dire que quand une personne dans la famille proche décidait de se dégager, pour une quelconque raison, le parent suivant pouvait dire, ben moi je prends. Voilà. Donc il faut savoir que celui qui vient pour détruire et tuer, ça peut être effectivement votre voisin, peut être l'ennemi d'à côté, un pays à côté, mais ça peut être aussi autre chose, c'est pas forcément humain. Et Jésus disait aux gens religieux de son époque, vous avez pour père le diable. Alors on va aller dans Jean 8, 44. Alors je dis ça parce que il y a le mot Goël aussi dans le texte que je vais vous lire. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, le Goël, dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce que il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc voilà, le Goël, on le retrouve dans nombreux textes, et ça c'est interpellant, quoi. Nous savons donc que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Ça, nous le savons, on l'expérimente chaque jour. Et Jésus dit ceci dans Jean 10. Donc il va parler de Satan. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Goël se retrouve aussi dans dérober, égorger. On retrouve le Goël ici. Alors, on se rend compte que Dieu et Satan, dans la Bible, ont eu plusieurs face-à-face. Il y a aussi Jésus qui a eu un face-à-face avec Satan, qui est venu accomplir. Donc Jésus est venu accomplir toutes les lois, hein, y compris donc celle du Goël. Alors on peut imaginer, là c'est pas du tout biblique ce que je vais faire, mais c'est très juif, on va dire, hein, de raconter une situation un peu comme une parabole. Donc une conversation qui se déroule entre Dieu et Satan. Et ça se situe juste au moment, juste après la chute de l'homme. Donc voilà, il y a Dieu qui dit: tu as soumis tous les hommes en esclavage et depuis ils souffrent et ils sont voués à la perdition. Je veux te les racheter tout de suite, je veux te les racheter, je veux racheter l'humanité complète, quel est ton prix? Oh, puis Satan, bah lui il est bien content, lui, les hommes ils sont tombés tout seuls, hein. Et puis il dit, Satan, si tu veux racheter l'humanité, c'est pas possible, car selon ta loi, le Gaal, tu dois être un proche parent. Or, tu es esprit, et eux, ils sont de chair. C'est, voilà. Comment vas-tu faire? Alors, le Père lui dit, Dieu, il lui dit, je demanderai à mon fils d'accepter de rejoindre leur humanité. Ainsi, il sera leur proche parent à ma place. Quel est ton prix? Il y a une négociation dans les cieux. Alors Satan, il dit, tu veux me priver du plaisir de faire souffrir les hommes, de les voir se détruire mutuellement? Ils sont à ma merci. Ce qui fait mon bonheur à moi, c'est de les voir souffrir. Et tu me demandes leur prix, de prix. Alors mon prix sera de voir souffrir ton fils à leur place, le plus cruellement possible, jusqu'à la mort. Alors Dieu se tourne vers Yeshua. Es-tu d'accord pour quitter ta gloire actuelle? Es-tu d'accord de prendre un corps, de souffrir, de mourir pour racheter tes frères? Et le fils qui dit, oui Père, que ta volonté soit faite. Comment le Fils de Dieu est-il apparu? Eh bien, Jésus s'est identifié à l'espèce humaine de façon à être des nôtres, de notre famille humaine, afin de pouvoir tenir ce rôle de vengeur de sang, le Goël. On regarde dans Hébreux 2, 14 à 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, avaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, ainsi qu'il fut un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors Jésus, il a en lui la chair, le sang, mais aussi l'esprit, ce qui va lui permettre de combattre Satan. Par conséquent, Jésus est qualifié pour être notre parent. Il a le devoir de rachat. Il est notre Gaal. Alors, je mets une petite parenthèse parce que ça, c'était des écrits pour Israël. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, avant de partir, il a envoyé ses disciples vers le monde, vers tous ceux qui voulaient écouter Dieu, tous ceux qui voulaient écouter la bonne parole, qu'ils la reçoivent et qu'ils aient en partage un héritage. Donc nous sommes dans cette histoire aussi, qu'on le veuille ou non. Jésus est venu nous racheter. Alors Jésus, il est bien sûr notre proche parent, puisqu'il est fait de chair et de sang, mais il a également une nature divine, de façon à poursuivre Satan, qui est lui un être spirituel, et mettre un terme à sa domination sur nous tous. Et Jésus prépare aussi son épouse, car il l'a rachetée. Donc en prenant sur lui notre mort, notre châtiment, il nous a libérés de la peur de la mort. Il nous a rachetés. De plus, en nous prenant pour épouse, il nous a rendu notre héritage. Voilà. Et cet héritage a été destiné avant la chute. On a chuté, on a perdu notre héritage, mais elle nous est rendue par Jésus. L'expiation restaure la faveur de Dieu au péché. C'est une réconciliation, une réunion complète. La résurrection est le cœur du message de l'Évangile. Tout est fondé sur Jésus, sur Yeshua, sur sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors on voit ici que notre Goël, notre proche parent, exerce son droit de rachat sur l'humanité. Il accomplit la loi du Goël. Donc je reviens sur le premier verset que j'avais avec cette dame, peut-être cette femme qui avait accompli, enfin qui avait fait l'adultère. Jésus avait donné s'était donné par amour, et là il se donne par amour au monde entier, à l'humanité. Voilà. Donc Jésus se donne à la croix, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour accomplit la loi. Donc pour conclure, Jésus nous invite tous à le suivre. Et ça, c'est formidable. Parce qu'aujourd'hui, on a une page à écrire. C'est à nous d'y aller. Il est devant nous, on doit le suivre. Et comment peut-on faire? Il y a une prophétie dans Jérémie 31-33 qui a été écrite donc moins 500 ans, moins 600 ans avant Jésus-Christ. Donc voyez-le, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser, ou qu'on va dire elle est réalisée, et qui est en train de continuer de se réaliser. Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Tu nous disais tout à l'heure que tu écrivais notre espérance, mais tu... tout ce que tu écris, tu l'inscris dans ton cœur. Ça, j'ai entendu, ça résonne vraiment, c'est vraiment. Tu accomplis la loi, Odette. Voilà. Voilà. Tout, oui. Amen. Et Odette, tu m'encourages dans ce que nous sommes. Tu nous encourages parce que tu es un exemple. Tu nous montres que. Voilà. Oui. Amen. Je reviens avec Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Absolument. Il faut accomplir la loi et par la loi. Et ne pas juger. Absolument. Dans Galates 5, 14. En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors moi, je remercie le Seigneur. Je remercie Yeshua pour ça. Je suis, moi, dans une grande difficulté puisque je suis dyslexique. Je suis dans la capacité de retenir tout. Je suis pas capable. Il me faut toujours un accessoire à côté. Et là, le Seigneur, il me dit non, la loi, tu ne l'as pas besoin de le savoir. La loi, c'est simple. Il suffit d'aimer les uns les autres. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que de l'amour qui accomplit la loi. Et on dépasse la loi. Eh bien, je vous invite chacun d'entre vous à dépasser la loi et à accomplir la loi. En écoutant Luc, en lisant Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Et j'ai trouvé une autre petite traduction qui m'a parlé plus. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Eh bien, je vous invite à être accompli. Soyez des disciples accomplis. Voilà. Alors, chacun a vraiment des dons différents. Je pense à Robert, missionnaire. Tout le monde n'est pas missionnaire, mais on peut accomplir là où on est la loi du Christ. Soyez amour autour de vous. Voilà. Soyez bénis, chacun. Amen.
Et on va bénir Rémi aussi. C'est merveilleux ce que tu viens de partager. Vraiment merveilleux, super. Donc c'est Rémi, c'est un cadeau aussi pour l'Église, comme nous tous. Hein. C'est un cadeau. Donc Seigneur, merci pour Rémi. C'est vrai, Seigneur, d'un côté d'être devant nous avec ce qu'il vient de dire, avec cette réalité de la dyslexie, mais merci pour la grâce qui est en lui aussi et l'accomplissement de l'amour. Et d'être devant nous tous régulièrement partageant cette parole. Merci Seigneur, quelle grâce, et continue de le bénir et toute sa famille Seigneur. Merci pour sa famille, bénis-les Seigneur et bénis-nous tous en tant qu'Église Seigneur. Merci pour la famille que nous sommes, merci qu'on peut aimer et accomplir la loi. Donne-nous la force Seigneur ce matin d'aimer. Merci car tu es notre Goël Seigneur, d'un côté, tu as marqué le but, tu es notre goal. Ouais, merci Seigneur. Tu as marqué le but de l'amour et tu as gagné Seigneur. Et tu nous rachètes, tu nous donnes une espérance. Tu restaures notre héritage comme épouse, comme Boaz a restauré l'héritage de Ruth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus cette semaine. Voilà. Soyez bénis. Amen. Merci.